las mujeres trafegadas, violadas dentro de todas las casas, mujeres do mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir pour invitée Anna Minsky. Donc elle va se présenter, mais avant, je vous dis deux mots sur Anna. Donc après quelques années de vie nomade, Anna Minsky étudie l'archéologie, en particulier les outils en pierre de Néandertal. Depuis l'enfance, elle écrit des nouvelles, des contes et des poèmes, dont certains ont été publiés par différentes revues. Peintresse, depuis 2011, elle publie des articles sur l'écologie, le féminisme et la technocritique. Sur le site Les Ruminantes, elle vient de sortir un livre qui s'appelle « Sagesse incivilisée, sous les pavés, la sauvageresse ». Et ce livre vient de paraître chez M Éditeur. Et du coup, Anna, je te laisse te présenter et présenter... un peu, enfin, ton livre et tout ton travail. Déjà, commencer par une petite présentation.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense que la présentation, enfin, ça va, tu m'as bien présentée. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je vais plutôt parler donc directement de l'essai, faire une petite présentation rapide. Donc, cet essai, je l'ai écrit parce que j'ai voulu essayer d'appréhender l'avènement des civilisations et plus particulièrement de la civilisation occidentale, mais aussi l'avènement donc, du patriarcat et du capitalisme. Pour ça, j'ai questionné les changements qui se sont opérés à partir du néolithique, c'est-à-dire autour de 13 000 avant Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on ne parle plus trop de révolution néolithique, mais plutôt de néolithisation au pluriel. Mais ça ne change pas le fait que de nouvelles techniques apparaissent, donc vers 13 000. Et donc j'ai mené une analyse technocritique sur ces techniques, ce qui m'a permis d'identifier des techniques que j'ai appelées de domination, dont les impacts sur l'organisation sociale, économique, écologique et symbolique sont assez considérables.
Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ce choix de ce titre, qui est vraiment « Sagesse incivilisée sous les pavés, la sauvageresse
» Bon, donc cet essai est un essai qui critique la civilisation. Mmh. Donc je pense que pour parler de ce titre, je vais commencer par définir peut-être le cadre historique dans lequel j'ai mené cet essai, donc la civilisation.
Oui.
Qui vient du latin civis, qui signifie citoyen et cité. C'est une culture qui est fondée sur les cités-états, dont le principe est d'exploiter une périphérie au profit d'un centre. Ce qui implique donc un réseau urbain avec une hiérarchisation des villes, par exemple une ville centrale et des villes satellites, villes minières ou villes portuaires. Ce qui implique également donc, une stratification sociale avec une importante division du travail. Une architecture aussi ostentatoire qui est à la gloire des dieux ou des grands hommes. Et un idéal, la cité-État défend une idéologie qui est le suprémacisme de l'humain adulte mâle dominant.
Donc toutes les civilisations se fondent sur ce suprémacisme.
Oui, vraisemblablement. Et après, la civilisation, c'est aussi un concept qui a été théorisé à la fin du XVIIIe siècle. Il recouvre à partir de ce moment-là aussi les termes de police et de policé. C'est à la même époque, donc au XVIIIe siècle, que Carl von Linné nomme notre espèce Homo sapiens. C'est-à-dire sapiens, un homme intelligent, sage, raisonnable, prudent. Et il élabore en même temps une taxonomie qui hiérarchise les populations et les races.
Ah, la hiérarchie des races.
Voilà. Donc, les espèces... Alors, attends, je reprends. Donc, en fait, avec la civilisation, on peut imaginer une pyramide. Mm-hmm. Et au sommet de la pyramide, on a donc l'humain adulte mâle qui devient mesure de toute chose. Mm-hmm. Et tout ce qui est renvoyé du côté féminin, que je développerai un peu plus tard,
oui.
Hein, sur
ce
dualisme entre masculin et féminin, est là pour faire valoir cette supériorité. Si on veut être supérieur, il faut forcément avoir des personnes inférieures, enfin des êtres inférieurs à soi. Donc à partir de ce moment-là aussi, on a, à partir du 18e, 19e siècle, on a une conception de l'histoire qui est finaliste, évolutionniste, ce qui permet d'instaurer une mission civilisatrice, notamment dans les colonies. Et cette vision de l'histoire place les hommes du paléolithique ou les indigènes. Ça renvoie donc tous ces les hommes donc du paléolithique, comme je l'ai dit, à l'enfance de l'humanité. Ce ne sont que des brouillons de sapiens. Et l'homme civilisé est là pour les intégrer à la civilisation. Donc cette civilisation est clairement hégémonique et elle naturalise l'évolution biologique et sociale. C'est une supériorité européenne qui va donc justifier la mission civilisatrice et la colonisation.
Alors dans ton livre, tu parles aussi beaucoup de technocritique, l'importance des technologies et par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux expliciter un peu ce que c'est que la technocritique ?
Oui,
okay. Merci.
Déjà, il faut bien comprendre que les techniques ne sont jamais neutres. Elles ont des conséquences sur l'organisation sociale et les relations entre humains, les relations avec les autres espèces aussi. Donc c'est Lewis Mumford qui a beaucoup travaillé sur les techniques et qui a identifié, qui a distingué deux techniques, des techniques autoritaires et des techniques démocratiques. Les techniques autoritaires imposent une hiérarchisation et une stratification sociale, puisqu'elles émanent d'un centre aux dépens de l'autonomie de la majorité des êtres vivants. Ça, ce sont les techniques autoritaires. Pour essayer d'identifier si les techniques sont autoritaires ou démocratiques, il faut prendre en compte l'ensemble du système de production, c'est-à-dire de l'approvisionnement des sources aux déchets. Pour faire simple, qui fait quoi, pour qui, pourquoi et aux dépens de qui et de quoi. En archéologie, on a essayé, et anthropologie, on a essayé d'identifier l'origine des inégalités. Et pendant longtemps, on a supposé, on a expliqué l'apparition des inégalités par l'agriculture, c'est-à-dire la domestication végétale, qui permet donc avec le grain, le stockage du grain, d'avoir des surplus, et une élite serait emparée de ces surplus pour dominer le reste de la population. Moi, en questionnant les techniques du néolithique, j'ai plutôt identifié une autre technique de domination dont l'impact est assez considérable, c'est la domestication animale.
Et quel est le lien, du coup, entre la domestication animale et la domestication masculine ?
Alors, je vais essayer de... Donc pourquoi déjà la domestication, je vais déjà définir ce que j'entends par domestication, parce que la définition de domestication s'est un peu élargie ces derniers temps. Je suis restée sur la définition la plus restreinte, c'est-à-dire que la domestication, c'est le contrôle de la reproduction en vue d'obtenir des animaux dociles pour les exploiter. C'est une technique donc de domination puisqu'elle elle implique la capture, le confinement, le dressage et l'eugénisme par la castration et la sélection des individus les plus dociles. C'est donc une réification d'êtres vivants qui va concerner également les enfants, les femmes, les esclaves et les indigènes. Alors la domestication, pour parler un peu du néolithique, qui concerne quand même tout le premier chapitre de l'essai, les techniques qui se développent au néolithique. On peut faire remonter les débuts de la domestication à celle du chien. Les dates actuelles et les plus sûres, frais, que le chien aurait été domestiqué à peu près vers 18 000 avant le présent. On a un fossile qui a été découvert en Yakoutie, par exemple. Mais cette domestication n'est pas, est différente de celles qui vont suivre, de la domestication des bovidés et des caprinés. Donc à partir de 11 000 avant Jésus-Christ, on a mis au jour à Chypre des fossiles de bovidés, de caprinés qui sont domestiqués. Ils ont été transportés par bateau sur l'île, ce qui signifie que sur le continent, la domestication est plus ancienne. Sur ces bovidés et ces caprinés, et surtout sur les bovidés essentiellement, on a des pathologies sur les os qui démontrent, qui prouvent que ces animaux ont été utilisés pour le transport et le labour. On a également des preuves de castration dès 9000 avant Jésus-Christ. Au même moment, on a des changements iconographiques et aussi dans les rituels funéraires. Donc à peu près, c'est vraiment vers 10 000, 9 000 avant Jésus-Christ aussi. Par exemple, à Tel Aswad, qui est un site qui se trouve en Syrie, on a mis au jour des crânes modelés qui ont été inhumés près des maisons. C'est un rituel qu'on retrouve notamment en Océanie et qui est lié au culte des ancêtres. Donc on peut supposer qu'à partir de que sur ce site en tout cas, les crânes modelés témoignent d'un culte des ancêtres. Donc il faut savoir qu'au paléolithique, on n'a pas trop d'inhumation, il y en a pas beaucoup. Hein. Très longue période. Il y en a quelques-unes au Gravettien. Dominique Henri Gambier a beaucoup travaillé sur les inhumations. C'est une archéologue.
Tu cites beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Du coup.
Je dis son nom quand même parce qu'elle était importante.
Oui, justement.
Malheureusement, elle est décédée il n'y a pas très longtemps.
D'accord.
Et elle a beaucoup travaillé donc, sur les inhumations au paléolithique. Et pour elle, elle a écrit un article encore en 2021 où elle dit qu'il est impossible de prouver qu'il y ait eu une domination masculine ou une stratification sociale en étudiant les inhumations. Les quelques inhumations qui sont présentes, et surtout au Gravettien. Bon, le Gravettien, c'est une période entre 31 000 et 23 000, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas la plus douée pour les dates, qui est une période assez froide, et c'est là où on a le plus d'inhumations. Donc là, il y a vraiment un changement qui apparaît au néolithique dans les rituels funéraires. Ensuite, au niveau iconographique, on a des bâtiments qui sont caractérisés par des piliers, ou des monolithes qui sont plantés verticalement. Parfois, ils sont décorés avec des animaux figurés qui sont placés sur un axe vertical, qui pourrait donc exprimer une vision hiérarchique. Le monde du dessus, celui du milieu et celui d'en dessous.
Ah ouais, d'accord.
Ce qui est intéressant, donc il y a une... je vais encore citer un nom.
Oui, mais non, mais au contraire.
Une anthropologue.
On apprend beaucoup comme ça.
Donc Roberta Maillon, qui a travaillé sur le chamanisme sibérien et qui montre bien les importants changements sociaux qui se sont opérés quand les chasseurs de rennes sont devenus éleveurs. À partir de ce moment-là, la filiation a pris le pas sur les alliances dans les relations qu'entretiennent la société avec les esprits. Donc, c'est-à-dire qu'on bascule d'une vision horizontale du monde à une vision verticale, où les ancêtres et leurs descendants prennent de plus en plus d'importance. On a aussi le site de Göbekli Tepe, donc ça, je voudrais bien en parler, parce que site qui a longtemps été attribué aux chasseurs-cueilleurs. Ce serait un site, un lieu de rituels. On a des animaux qui ont été les animaux qui ont été chassés et dont on retrouve les fossiles sont des animaux sauvages. C'est pour ça que ça a été longtemps attribué à des chasseurs-cueilleurs, mais le site de Göbekli Tepe a été détruit, on ne sait pas si c'est volontairement ou pas. Il est situé en Turquie.
Ah oui, j'allais te demander où est-il situé, ouais.
Il est situé en Turquie et il date à peu près, il a été daté de 9000 avant le présent, mais ça a été très difficile à dater, donc c'est à prendre avec des pincettes quand même. Quoi. Mais en tout cas, il faut savoir que la domestication n'a jamais mis fin à la chasse et que ce site se trouve dans un lieu où la domestication animale et végétale existe depuis un certain temps. Donc on ne peut pas considérer ce site comme étant celui de chasseurs-cueilleurs à partir du moment où la domestication animale modifie énormément le rapport au sauvage et le rapport à la nature. D'accord. On ne peut pas l'isoler, en fait, de sa région. Mmh. Et ensuite, je vais parler brièvement, ça va ?
Oui.
Ouais, c'est bon. Ouais. Sur la domestication du cheval, qui change aussi beaucoup de choses. Mmh. À partir de... Donc, elle est datée de 4500 avant Jésus-Christ, sur le site de Botaï, au Kazakhstan. Mmh. Et en même temps que le cheval est domestiqué, et on a un changement, un passage au pastoralisme. Les chevaux sont clairement utilisés... on monte sur les chevaux et voilà, on va sur les... On chevauche dans les steppes. Mmh. se développe en même temps donc, la culture de Maïkop avec des tombes d'accompagnement et un culte du guerrier. On a également des phénomènes d'enceinte rituelle, comme par exemple celle de Pomelte en Allemagne, où on a retrouvé 29 fosses avec des os d'animaux, de femmes et d'enfants qui ont clairement été sacrifiés. Donc là, on voit vraiment une apparition du culte du guerrier, d'une certaine forme de virilisme et de tombes d'accompagnement, donc des morts qui sont sacrifiés et qui sont essentiellement des femmes et des enfants.
D'accord. Mmh.
Donc la domestication est une appropriation d'êtres vivants, d'individus, en vue de contrôler leur reproduction. Et la domination masculine est une appropriation du corps des femmes en vue de contrôler la reproduction, la sexualité et la force du travail, et sa force de travail, notamment dans la sphère domestique.
Oui, on retrouve ce parallèle entre oui, les animaux
c'est,
et
c'est
les
la
femmes.
Même ce la sont même, les mêmes la les même même techniques de domination quoi, qui sont employées.
Ok, je peux. Il me vient une question. Bon, ça fait peut-être revenir en arrière, mais par rapport aux techniques, si tu pouvais donner quelques exemples de la différence entre les techniques autoritaires et les techniques démocratiques.
Alors, je vais faire très simple.
Oui.
Les techniques autoritaires, en fait, nous sommes entourés de techniques autoritaires. Mm-hmm. Nous sommes la société industrielle. C'est une technique autoritaire par excellence qui nous dépossède totalement de nos moyens de subsistance, de notre autonomie. Mmh. On est totalement dépendant de ce système. Ouais. Ça crée une stratification sociale importante.
Ouais. Plus personne ne comprend rien. Enfin, ne
oui,
sait
et les objets qu'on utilise, c'est parce que l'autre moitié de la planète est exploitée, en fait. Quoi.
Mmh. Tout à fait.
Donc ça, c'est une technique autoritaire. Une technique démocratique, c'est à partir du moment où nous sommes capables de la mettre en pratique nous-mêmes. Donc c'est l'artisanat. Par exemple, voilà, l'artisanat, c'est une technique. Revenir à une décroissance en fait des techniques, quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est clair, mais
si.
Ouais, ça va.
Très très clair. Alors, je ne sais pas si c'est là que tu voulais passer, parce que tu as aussi des vidéos sur ton site. Et donc, il y avait la buveuse d'ombre. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu veux qu'on passe cet extrait-là.
Si tu veux. Alors, j'ai rien contre.
Ok. Alors, par contre, donc faut que tu me passes ton téléphone. En fait, techniquement, on a...
Ah oui, c'est vrai.
Oui, voilà.
Tiens.
Alors. Si tu veux,
là, j'espère que ça va marcher.
Pendant ce temps-là, si tu veux dire deux mots sur ce que c'est, pour le décrire un peu ce qu'on va écouter.
La buveuse d'ombre, c'est un poème que j'ai écrit, que j'ai mis en musique et qui... Attends, je te le fais.
Ouais.
Et qui est en lien avec un peu les recherches que je mène depuis quelques temps. Enfin bon, après c'est de la poésie, hein, mais c'est qui se rattache un peu à l'écoféminisme, la domination... l'exploitation des femmes, l'exploitation de la nature et des animaux.
Ok, alors on va écouter ça.
Ils nous ont arraché les griffes et les canines. Nous ont jetés dans des mines de charbon, de tantale, de cobalt. Nous ont réduits en chair à canon, chair à prison, chair à poisson. Ils ont cloîtré le temps et muselé nos morts, figé nos mémoires dans des livres d'images, réduit nos muscles à des graphiques de croissance, projeté leurs hallucinations jusqu'aux confins de l'espace. Ils ont piégé, dressé, exhibé les enfants de la grande ours, n'ont retenu d'Orion que la flèche, du scorpion que le dard. Sous leur règne, nous craignons le silence et la nuit, exigeant toujours plus de fureur, de klaxon, de lumière, de chirurgie. Sous leur règne, nous perdons la vue, l'odorat, le langage commun, le goût de la contemplation, du froid frissonnant sur la peau, des pluies semant la voix des anciens. Le manque des âges de la lenteur est une vaste plaie qui s'étend. Pour mettre fin au cauchemar, pour mettre fin à la répétition des massacres, souvenons-nous de la gaieté des rivières où frayaient par milliers les saumons, de l'effroyable beauté où s'abreuvaient nos enfances. Souvenons-nous, nos corps sont des eaux souterraines chahutées par des sauvages qui nous offrent leur nom. Retrouvons nos griffes et nos canines. Ne craignons plus d'être indociles.
Alors, donc la révolution sera féministe avec Anna Minsky. Maintenant, je voulais te demander comment fonctionne le suprémacisme de l'humain adulte mâle au cœur de tous les systèmes de domination qui fondent les civilisations, etc. On a tellement là, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Alors, oui, c'est un... Alors, il y a un mythe qui est important et qui fonde les civilisations, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui a été écrite donc à Uruk, en Irak, qui se trouve en Irak, qui est considérée, donc Uruk, c'est une ville qui date de 5000 avant Jésus-Christ à peu près, et qui est considérée un peu comme l'une des premières civilisations. Le mythe de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh est intéressante sur plusieurs points. Donc Gilgamesh est le roi d'Uruk. Il abuse de son pouvoir. Et les dieux, donc, qui sont en colère contre l'hubris de Gilgamesh, la démesure de Gilgamesh, décident de modeler un homme sauvage, Enkidu, qui vit dans la steppe avec les animaux. Gilgamesh est au courant. Il décide de partir dans la steppe pour amadouer Enkidu. Et il est accompagné de Shamat, qui est ce qui signifie la joyeuse et qui est une prostituée. Enkidu a donc une relation avec Shaman sur 6 ou 7 jours. Et c'est dans cette relation sexuelle, affranchie des règles du mariage et de la reproduction, qu'il est intronisé à la civilisation. À partir de ce moment-là, les animaux se détournent d'Enkidu et Enkidu part pour la ville. Il devient ami avec Gilgamesh. Ils décident tous les deux de partir dans la forêt des cèdres, qui sont des arbres sacrés. Ils coupent la tête au gardien de cette forêt sacrée et partent avec le plus vieux cèdre de la forêt. Les dieux sont en colère. Ils décident de tuer Enkidu. Au moment où Enkidu meurt, il maudit Shamat et toutes les prostituées. Donc, après, bon, Gilgamesh refuse de mourir comme son ami, donc il part à la conquête, à la quête de l'immortalité. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Là, je vais rester sur cet événement, en fait, sur la conception qu'il y a de la prostitution qui existe en Mésopotamie et qui fonde visiblement la civilisation.
Ah oui.
Donc en Mésopotamie, on a des prostituées et on a également des hommes prostitués, qu'on appelle synèdes ou invertis. Ils occupent toujours le rôle passif du féminin. Ils sont toujours considérés comme efféminés. Et donc infériorisé. C'est là où on voit l'instauration, ou en tout cas la consolidation du genre. Donc le genre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui fait partie des études féministes, en fait, qui a été identifié par les féministes, c'est la construction sociale du sexe biologique. Donc il est toujours méprisé, infériorisé par rapport au masculin. Donc le suprémacisme humain fonctionne, enfin humain de l'humain adulte mâle, fonctionne grâce au genre, au dualisme entre masculin et féminin, qui va fonder toutes les oppressions. Comme le dit d'ailleurs Françoise Daubonne, écoféministe. C'est elle qui a inventé le néologisme en 1974. Et à cela s'ajoute donc le stigmate de la putain, qui n'est pas autre chose qu'une culture du viol, puisque la prostitution est un viol tarifé. Donc on sépare, avec la prostitution, le stigmate de la putain, on sépare la classe de sexe des femmes, entre les femmes respectables, celles qui vont rester au foyer.
Les épouses, les mères.
Voilà, qui vont permettre au patriarche de répandre sa lignée patriarcale. Et celles qui sont mauvaises, femmes mauvaises, les prostituées, qui sont, dès cette époque-là, rejetées dans la périphérie de la ville, avec les fous, les sorciers, voilà.
Mauvaises parce que violentées, quoi, en fait. C'est dingue, quoi, parce que... Mais en les fait, hommes se donnent ce droit de violer des femmes et en plus, double peine, ce sont elles les mauvaises. Quoi.
Voilà. C'est une façon de diviser
bien sûr
la classe des femmes. Et donc, ce qui va valoriser l'homme va dégrader la femme. C'est-à-dire la relation sexuelle en dehors du mariage et de la reproduction. Et on retrouve ce système aussi bien à Rome que dans la Grèce antique, qui va même devenir plus...
Alors du coup, je vais lire un passage de ton livre à propos de ça. En Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Solon légalise les bordels qu'il considère comme bénéfiques pour l'ordre social. Des esclaves et des enfants d'esclaves sont achetés au profit d'une clientèle exclusivement masculine. En Chine ancienne, les parents les plus pauvres vendent leurs filles qui recevront une éducation raffinée afin de devenir des prostituées de luxe. Les pieds bandés pour satisfaire le sadisme des clients prostitueurs qui paieront cher leur virginité. D'abord louées à prix d'or, elles sont ensuite vendues à des bordels une fois considérées trop vieilles ou abandonnées dans les rues. La prostitution est connue dans toutes les civilisations antiques, Uruk, Alexandrie, Athènes, Éphèse, Chine, Japon, Rome, Pompéi. Hommes, femmes, enfants, quand elles et ils ne sont pas esclaves au service du maître, se tiennent dans les parcs, près des portes d'accès aux cités, dans les bordels et les tavernes, derrière les tombeaux ou au sein même des armées. Le développement urbain semble donc aller de pair avec une conceptualisation du sexe définie par et pour les hommes qui usent à leur guise des corps des esclaves et des prostituées, légitimant, sous couvert de raffinement érotique ou amoureux, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Si les prostituées évoluent dans l'espace public, l'espace de la femme honnête, la matrone, la génitrice, est la sphère privée, laquelle offre une protection à la femme en échange de sa soumission au pouvoir du patriarche, dérivé du grec patriarchès au sens de chef de famille. La glorification des mères, matrice de l'État. Toutes les civilisations ont valorisé l'image de l'épouse et de la mère, divisant ainsi les femmes en bonnes et mauvaises. Cette division a permis aux hommes l'appropriation sociale des femmes. Donc là, je vais citer Colette Guillaumin. La mobilisation de la classe des femmes au service de celle des hommes passe par l'appropriation collective et privée de leur individualité matérielle, corporelle. Ce n'est pas la seule force de travail des femmes qui est appropriée par le mari père, c'est la femme elle-même. En Mésopotamie, le destin de la femme comme femme, c'était de mettre au monde et d'élever des enfants selon le modèle choisi du mariage et de la famille patriarcale. Elle était donc faite pour devenir l'épouse d'un homme, d'un seul, et la mère de ses enfants. La femme qui n'avait pas d'enfants risquait la répudiation, et il n'était pas rare qu'un homme prenne une seconde épouse pour assurer sa descendance. Le contrôle de la sexualité de la femme était une nécessité pour maîtriser la reproduction en vue de contrôler la descendance en ligne agnatique. Et sa base légale a toujours été le mariage. La femme doit être fertile et faire des enfants, tandis que l'homme gère l'espace de la cité. Même si certaines femmes occupent des places de pouvoir, telles la pharaone Hatshepsut, elles ne remettent pas en cause le patriarcat. L'appropriation sociale du corps des femmes par les hommes et la filiation, dans ce cas précis avec le dieu Amon-Re. Il n'est pas anodin que la déesse dominant le panthéon égyptien soit Isis, figure de l'épouse et de la mère. Rappelons également l'existence de prêtresses dont la virginité était exigée et le mépris pour les prostituées dont les hommes disposaient dans les maisons de la bière. Entrer dans la maison de la bière implique une conduite immorale de la part de la femme. C'est le code d'Hammurabi. L'opposition mère-prostituée participe à la construction de deux espaces dans lesquels les femmes évoluent différemment. La mère occupe l'espace privé ou domestique perçu comme bon et protecteur, tandis que les prostituées errent dans l'espace public, l'espace masculin, où elles sont livrées au plaisir des hommes. Que certaines d'entre elles jouent de la harpe et boivent de la bière ne change pas le fait que leur corps est à la disposition des hommes comme le corps de l'épouse est, par le mariage, à la disposition du mari. La volonté de l'homme définit ainsi les qualités des femmes selon les espaces dans lesquels elles évoluent. La promesse d'une sécurité dans la sphère privée cache le mépris des hommes pour la liberté et l'intégrité du corps de toutes les femmes, leur volonté d'instaurer une société androcentrée. C'est ainsi que toutes les activités exercées par des femmes hors de la sphère domestique sont dévalorisées quand elles ne sont pas invisibilisées. Lavandière, sage-femme, nourrice, raccommodeuse, marchande de légumes, etc. Cette invisibilisation est encore de mise dans nos sociétés modernes, toujours androcentrées. Invisibilisation dans les recherches sociologiques et ethnologiques, par exemple, et invisibilisation dans la sphère productive, comme la crise sanitaire du Covid-19 l'a montré. Aide-soignante, infirmière, caissière. Voilà, j'arrête là l'extrait. Voilà, donc est-ce que donc on voit que on vient de parler là de la violence oppressive de l'homme adulte mâle, qui est certainement une des causes de la destruction du vivant. Et est-ce que tu peux aussi nous parler, dans ce livre, il y a un chapitre qui nous parle de la biogynophobie. Oui. Et c'est très intéressant aussi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, ouais, la biogynophobie. Donc, les études féministes employaient déjà le mot gynophobie, notamment après avoir étudié la conception de l'utérus dans la Grèce antique. Pour nommer donc la peur irrationnelle de l'homme pour l'utérus. J'ai rajouté le préfixe « bio » pour signifier que cette peur de l'utérus était également une peur de la vie et de la biologie. Voilà. Dans la Grèce antique, l'utérus est perçu, quand on lit les textes, c'est assez hallucinant, quoi, est perçu comme un animal sauvage et dangereux qu'il faut domestiquer. Donc il y a vraiment un désir de maîtrise du corps de la femme et de sa reproduction. Et je me suis un peu perdue, là. Désolée.
Non, mais c'est pas...
C'est vrai que c'est assez dense, donc c'est un peu...
Et tout est relié, tout est...
Voilà, oui, tout est lié.
Donc voilà, c'est donc peu, c'est pas forcément facile à...
Pour revenir donc à la domestication animale,
ouais.
C'est à partir... dans la Grèce antique, on commence les vivisections sur les animaux. Mmh. Et c'est clairement pour comprendre aussi comment fonctionne la reproduction. Donc, mmh. Les expérimentations animales, depuis mmh. ses débuts, en tout cas depuis qu'on en connaît les plus ou moins les dates les plus anciennes, quoi, permet aux hommes, puisque cette médecine est patriarcale, elle est mmh. faite par les hommes et pour les hommes, et permet aux hommes de contrôler le corps des femmes, ou en tout cas d'essayer. Mmh. Et c'est quelque chose qui est présent, comme je parlais tout à l'heure de Gilgamesh, par exemple, sa quête d'immortalité. Ouais. Mmh. On retrouve ça, notamment aujourd'hui, puisque les techniques ont évolué, elles ont considérablement changé, elles sont devenues particulièrement autoritaires, et on le retrouve aujourd'hui dans le transhumanisme. Tout ce qui est expérimenté sur les animaux d'élevage, tout ce qui est expérimenté à l'INRA, est expérimenté sur les femmes.
Ah oui.
La FIV, les ovocytes, ça vient, c'est des expérimentations qui sont faites depuis un moment sur les animaux d'élevage, ouais. sur les vaches.
Ça, je le savais pas vraiment avant. Je m'en étais pas, j'avais pas fait ce lien.
Alors ça, oui, c'est.
Du coup, ouais, c'est intéressant.
C'est vraiment très. On a dès les années 50, on a des banques à sperme pour les taureaux qui vont produire, 3000 veaux, je crois. Enfin, c'est vraiment très. Et aujourd'hui, ce sont des banques à sperme humains. Mmh. On a des embryons aussi qui sont exploités pour les cellules souches, pour la régénération. Mmh. On a des banques pour les embryons, pour les ovocytes. Mmh. Donc c'est vraiment une exploitation du corps de la femme, parce que obtenir des ovocytes, c'est quand même un traitement hyper violent pour le corps.
Mmh. Bien sûr.
Qui laisse des séquelles. Quoi.
Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on lutte, j'en parle souvent aussi, de lutter contre les ventres alloués. On en est arrivé à la GPA. Qui est vraiment l'exploitation reproductive des femmes. Donc ça semblait de la science-fiction et malheureusement, on est arrivé à devoir lutter aussi contre cette terrible exploitation des femmes.
Cette quête d'immortalité, on la retrouve aujourd'hui dans le transhumanisme. Mm-hmm. Donc avec les tentatives d'utérus artificiel. Mm-hmm. Pour ne plus avoir besoin finalement du corps des femmes, en fait, quoi. Mm-hmm. Je sais pas si je vais retrouver, il y avait une citation qui était bien, là, d'Hippolyte, où dès la Grèce antique, on a des mythes où des hommes ne veulent mm-hmm. pas de femmes pour se reproduire. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, dans les expérimentations actuelles. Ouais. Et sous couvert de progrès, n'est-ce pas, cette évolution finaliste qui doit conduire au bonheur de l'humanité, à son immortalité.
Oui, j'ai vu que tu parles aussi du concept de progrès. Peut-être que tu peux aussi expliciter ce qu'on entend habituellement par progrès. Non.
Mais c'est vrai que j'avais prévu.
Ah oui, de lire quelque chose rapport à la biogynophobie. Ok, je te laisse.
Parce que pour moi, la biogynophobie est clairement associée aujourd'hui avec le transhumanisme.
Tout à fait. Donc,
je vais lire un petit extrait. C'est pas trop long. Quoi.
Non, on t'écoute, prends ton temps.
L'homme qui voue un culte au progrès et non à la perfectibilité ou à la sagesse voue un culte à la destruction. Il croit au mythe de la destruction créatrice. Conçoit son pouvoir d'extermination comme étant similaire au cycle de vie et de mort de la nature. Mais en réalité, ce qui l'obsède, c'est sa supériorité. Et pour cela, il doit dominer la chair, surtout celle des autres. Il lui faut arracher l'esprit aux ténèbres de la viande, des os, des nerfs, du sang. Trouver l'origine de la vie, ou à défaut en reproduire un ersatz. L'enfermer dans un laboratoire, la réduire à un nombre d'or et la reproduire ad nauseam. Le projet cybernétique, touchant des domaines de plus en plus nombreux et diversifiés, comme l'automatique, l'informatique et l'intelligence artificielle, la biologie et la génétique, les sciences humaines et sociales, la philosophie et la psychanalyse, les sciences de la communication et le monde des médias, le champ des idées politiques, n'est pas autre chose qu'une utopie à la gloire de l'homme, l'humain adulte mâle autonomé sapiens, le fantasme de sa toute-puissance. Cette conception de la gloire, qui n'est en réalité qu'une paranoïa sécuritaire contre la vie elle-même, ne conçoit l'émancipation qu'en opposition à la nature. Elle est intimement liée à celle du finalisme évolutionniste qui n'envisage l'évolution dans son extraordinaire diversité que comme un processus ayant pour but principal de créer l'humain mâle. L'homme n'hésite pas à se placer au sommet de la pyramide évolutionniste et à poursuivre son ascension. Le progrès, en effet, ne doit jamais s'arrêter. Si l'homme est doté de la capacité de créer des artefacts, n'est-ce donc pas pour s'émanciper de ce qui l'oppresse ? Les lois de la nature, les lois biologiques, celles qui imposent le cycle de la vie et de la mort, celles qui, du fait de la diversité biologique, sont responsables des maladies du vieillissement. La progression est donc celle de la domination de l'homme sur la diversité biologique. Pour dominer, il lui faut développer des techniques toujours plus complexes qui lui permettent de contrôler les lois de la nature. Domestication, eugénisme, manipulation génétique généralisée. Pour y parvenir, il lui faut maîtriser tous les utérus, celui des vaches et celui des femelles humaines. Voilà, je pense que ça va aller comme extrait.
Ah oui, oui. Je pensais à te demander si tu veux bien ce qu'on appelle l'écoféminisme radical.
Alors l'écoféminisme, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un néologisme qui a été créé par Françoise Aubonne en 1974, qui allie donc le mouvement féministe au mouvement écologiste. Donc l'exploitation du corps des femmes et l'exploitation écologique sont liées. Puisque dans une société capitaliste et patriarcale, c'est l'hégémonie des valeurs du genre masculin qui vont être valorisées, c'est-à-dire la compétition, la prédation, tout ce qui aujourd'hui participe à l'écocide actuel. Donc on fait ce lien-là, moi je le fais aussi, je ne suis pas la seule, hein, mais je le fais aussi avec la domestication animale. Alors on ne peut pas trop dire si la domestication animale a précédé ou pas la domestication des femmes.
Ouais. En tout cas,
la domination masculine, mais en tout cas, bon, elles ont coévolué, ça c'est sûr, enfin on le voit.
Elles sont liées, quoi.
Elles sont liées. Et donc radical parce que ce que je défends c'est l'abolition du genre, de la prostitution, de la pornographie, de la pédocriminalité,
féminisme radical et écologie,
voilà,
radical.
Et de la domestication animale, parce que on parle beaucoup de misogynie, mais le spécisme fait partie aussi de la civilisation puisque les animaux sont hiérarchisés. Selon l'étalon de mesure qui est donc l'humain adulte mâle dominant qui s'est placé au-dessus. Parce que bon, là, on parle quand même de l'élite. Hein. Faut pas oublier que les gens du peuple, ceux qui ne sont pas dans l'élite, n'ont pas forcément ce délire, ce mythe, ce désir de domination. Quoi. Les femmes ont toujours travaillé, par exemple. Dans le peuple, les femmes ont toujours travaillé. Et là, c'est vraiment une idéologie qui vient de l'élite, du sommet de la pyramide,
qui crée des mythes, comme tu, enfin, et qui les impose en fait. La culture, nous influence énormément et nous forme à cette idéologie en fait, quoi. Forme donc avec ces mythes, avec
ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec l'écoféminisme aussi, c'est que justement, ça fait le lien aussi avec l'imaginaire.
Voilà, j'allais dire l'imaginaire, c'est quelque chose aussi dont
l'importance de l'imaginaire.
Beaucoup.
Et il y a un anthropologue qui a mené, pour parler d'imaginaire, du coup, si ça te va. Il y a un anthropologue qui a travaillé donc en Sibérie, qui s'appelle Charles Stepanov, qui a fait un très bon travail, donc, qui a identifié donc, un chamanisme hiérarchique et un chamanisme hétérarchique. Donc, il étudie donc les techniques de l'imaginaire. Et le chamanisme hiérarchique, c'est un chaman qui est le seul à pouvoir communiquer avec les esprits. Donc, les autres membres de la société ne peuvent pas communiquer avec les esprits directement. Ils doivent passer par le chaman. Le chaman est hiérarchique, donc il y a toujours un chaman, hein, qui est, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de la tente sombre. Il est enfermé dans une tente avec tous les, et attaché, avec tout, enfin avec les membres de la tribu, je veux dire tribu, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le mot tribu, enfin approprié, mais bon. Et, mais tous peuvent communiquer, lui n'est qu'un médium, tous peuvent communiquer avec les esprits. Donc il y a une appropriation de l'imaginaire par un individu.
Par une élite, là, en l'occurrence, un individu.
Là, en l'occurrence, c'est le chamanisme. Et ce qui est intéressant, enfin, le chaman. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que dans le chamanisme hiérarchique, il y a également un dualisme féminin-masculin, avec le masculin qui, donc, représente la transcendance, bah, comme dans nos sociétés, hein, la transcendance, la liberté, c'est la sphère synergétique, la sphère de l'aventure.
Attribuée au masculin.
Attribuée au masculin. Voilà. Et la sphère, et donc le féminin, qui lui est renvoyé aux forces shtoniennes, donc qui sont néfastes, qui sont dangereuses, et qui sont dans l'immanence. Qui sont l'immanence par opposition.
Le féminin est dangereux, on en revient à la biogynophobie, l'utérus, tu disais, qui est vu comme vraiment quelque chose de dangereux.
À maîtriser. Mais de toute façon, l'homme civilisé cherche à maîtriser la nature et forcément ça passe par le corps.
Ça me fait penser aussi à un chapitre qui s'appelle « Animal, femme, indigène, trois figures pour une même peur ». Et bon, il y a une phrase qui m'a frappée aussi, c'est tu dis que c'est par le corps de la femme que les races sont décrites.
Oui, alors, et oui, et les animaux aussi, hein, voilà. Ça je ne sais pas si je l'ai mis, mais en tout cas je le dis maintenant. On a un excellent livre d'ailleurs qui a été, c'est La politique sexuelle de la viande, où on a donc les animaux aussi qui sont sexualisés avec des attributs féminins. Beaucoup. C'est assez frappant. Et donc oui, en fait, c'est tout ce qui va servir de faire valoir au masculin qui va être infériorisé. Et donc ils ont tous le même, ils sont tous rejetés dans l'immanence, l'animalité, l'émotion, enfin tout ce qui est la passivité.
Donc tout le féminin.
Donc indigène, animal, esclave, femme. Sont rejetés du côté de la nature et l'homme du côté de la culture.
Ouais, et tu disais dans ce chapitre-là que la pensée de la supériorité de l'adulte humain mâle précède la hiérarchisation des races humaines. Donc, non ?
Oui, oui.
Je crois que tu avais dit ça.
Si, je te comprends.
Je ne me souviens pas toutes les phrases. La domination masculine est au cœur de tous les systèmes de domination. Quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, de voir que
mais la domination, cœur, la domination...
C'est ce que j'avais pour intuition, moi. Voilà, j'ai toujours imaginé ça, et c'est pour ça que je suis féministe. Mais en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en lisant ton livre, on le comprend, comment ça fonctionne, comment c'est imbriqué, comment la domination masculine est le fondement de tous les autres systèmes de domination. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est ça, en fait, c'est que en lisant ton livre, on arrive à comprendre ça. Enfin,
tant mieux, ouais.
Voilà, c'est pas si c'était un de tes objectifs.
Si.
Voilà, c'est ça. Ok, voilà. Donc,
C'est cool.
Voilà. Et sinon, justement, il y a aussi un autre concept, quelque chose de très important qu'on n'a pas encore abordé, là, je pense, c'est le capitalisme et la réification.
Et oui. Donc, voilà. Alors, par exemple, les écoféministes font démarrer le capitalisme, plus ou moins avec les physiocrates, 16e siècle à peu près, les débuts de la colonisation, etc., la marchandisation. Moi, je le fais démarrer avec la domestication, en fait, puisque c'est une réification des êtres vivants. La marchandise, c'est une réification, c'est on transforme les êtres vivants en objets. Et qui permet, d'ailleurs, donc de s'approprier ses corps en vue de les exploiter pour la force du travail, pour la reproduction, mais aussi pour des expérimentations afin d'assouvir une utopie qui est, je reviens toujours à cette quête d'immortalité. qui, donc je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, bon, Gilgamesh part à la quête de l'immortalité, bon, on lui dit que non, ce n'est pas possible, il est mortel, il faut qu'il accepte. Il revient en ville et là, il se dit, bah, tiens, comment m'immortaliser ? Bah, par des monuments. Donc la ville représente aussi ce désir, cette quête d'immortalité à travers une architecture ostentatoire pour les grands hommes.
Des monuments, voilà. Oui, pour les dieux. Dire, en fait.
Donc un désir de devenir Dieu, en fait, et de créer un monde à son image. Donc un monde totalement artificiel et une domestication généralisée. Il me semble que c'est un peu le projet qu'on retrouve. Et donc, le capitalisme, moi, je le fais partir à ce moment-là, à partir de la réification, qui permet aussi une accumulation de richesses, mais qui passe par le bétail, par exemple. On a un passage qui est intéressant aussi, qui a été documenté en ethnologie, par exemple. C'est le prix de la fiancée et le service à la fiancée. Donc, c'est-à-dire qu'un homme qui veut se marier, dans le service à la fiancée, il va s'impliquer physiquement. Il va, pendant un certain temps, plus ou moins long, selon les peuples, il va rester dans la famille de sa future compagne.
Ça, on trouve ça pour quelques... C'est arrivé pour quel peuple à quel moment, ça?
Je me souviens pas de tous les peuples. En tout cas, Charles Stepanov en parle. Donc, il y a des peuples en Sibérie qui fonctionnent encore comme ça, sur le service à la fiancée. Et qui sont,
que ça fonctionne encore comme ça.
Oui, il y en a qui fonctionnent encore comme ça. Mais il ne faut pas oublier que les peuples actuels ne sont pas les peuples du paléolithique. Il y a eu, ils ont tous échangé, ils ont tous subi des colonisations, échangé avec des peuples éleveurs et des peuples. Et ça change considérablement les mythes.
Je t'ai coupé, excuse-moi, du coup. Il n'y a pas de souci à la fiancée.
Et donc, d'ailleurs, Stepanov en parle très bien dans son livre aussi, le passage au prix de la fiancée. Donc là, on va payer, en fait. Donc la femme devient une transaction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis un petit peu penchée sur la monnaie. Il y a, j'espère que je vais dire son nom correctement, Ehrenschmidt, qui a travaillé sur la monnaie. C'est une femme. Et qui constate le lien entre l'apparition de la monnaie frappée et donc c'est dans le temple d'Athènes, qui vient remplacer en fait le sacrifice, et notamment le sacrifice des sacrifices de femmes, et qui vient aussi donc remplacer cette on va payer, en fait, on va donner de la monnaie plutôt que de donner du bétail pour obtenir une épouse. C'est une transaction, même si la dot provient, par exemple,
Interrogée sur ça, parce que la dot en Inde,
le fait est que la femme est une transaction, c'est un objet qu'on échange,
soit l'homme qui paye ou la femme ou la famille de la femme, mais en tout cas c'est un échange. La femme devient une transaction économique. Le mariage est lié à ça.
Bon, je sais pas si j'ai répondu correctement.
Je viens de penser il me semble qu'on avait prévu une musique qu'on a oublié de passer. De la musique punk sur.
Mondragon. Alors c'était sur.
Mondragon. Voilà.
Pour dénoncer la prostitution.
Voilà, tout à l'heure on a parlé de la prostitution, mais peu importe, on va la passer maintenant. Donc c'est une musique que tu as choisie. Peut-être tu peux dire deux mots sur. Moi je connaissais pas, en fait, Mondragon, le corps d'Ama sur la chanteuse. Qui c'est ?
Ah ben c'est un groupe, ça date un peu. Je crois qu'ils sont plus. Je crois qu'ils existent plus trop, Mondragon. D'accord. Mais bon, c'est un album que j'aime beaucoup. Alors c'est du punk bien.
C'est bien, ça change. Moi je passe pas souvent du punk, donc c'est bien de profiter des invités pour changer un peu la musique. Donc voilà, je vous laisse écouter Mondragon.
Maintenant que t'es morte, voilà que tu fais la une fête hiver partout. Y'a même pas de nom, tout le monde s'en fout. Maintenant que t'es morte, on verra qui est-ce qui viendra te chercher dans ton trou. Le corps d'une pute, tout le monde s'en fout. l'hiver partout. Y'a même pas de nom, tout le monde s'en fout. Maintenant que t'es morte, on verra qui est-ce qui viendra te chercher dans ton trou. Le corps d'une pute, tout le monde s'en fout. But now we don't play, so don't pretend to be.
Dama, qui dénonce l'exploitation des femmes dans la prostitution. Alors, je reprends donc avec Anna Minsky, mon invitée. Et du coup, je voulais te demander... Ah oui, je voulais te demander qu'est-ce qui peut faciliter, enfin, je me suis posé la question, mais ce système de domination, et tu parles aussi qu'il y a une soumission et que tu expliques un peu comment expliquer, enfin, la soumission aux élites. Tu parles de fidélité suicidaire des femmes, des vassaux, des esclaves à leur maître masculin qui finalement collabore à leur asservissement. J'aimerais bien que tu nous parles de ça.
Oui. Alors, il y a plusieurs manières de soumettre. Donc, il y a des théories qui disent que par la sélection génétique, on aurait, la domestication, une auto-domestication humaine aurait fait que nous sommes plus soumis qu'au paléolithique. C'est une des thèse. Personnellement, je pense que
pas.
J'y adhère pas trop, non. Mais peut-être. Hein. Bon, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des phénomènes psychologiques que Muriel Salmona a beaucoup travaillé là-dessus, sur les phénomènes d'emprise, les phénomènes post-traumatiques, ou le syndrome de Stockholm.
Le psychiatre qui a une association mémoire traumatique et... Voilà, qui lutte. Voilà.
Donc, et on sait aujourd'hui que l'inceste est assez, et malheureusement un peu, enfin, pratiqué de manière un peu trop courante. Je crois que les chiffres, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez assez flippant, en fait.
Bien trop banal. Ouais.
Voilà, et l'inceste a des conséquences terribles au niveau psychologique, avec des effets post-traumatiques qui sont très difficiles à identifier parfois, qui sont parfois très difficiles à identifier. Moi, je conseille donc le travail de Muriel Salmona, qui en parle très bien.
Oui, souvent aussi, je reviens sur ses travaux dans mes émissions.
Voilà, et aussi tout ce que peuvent dire aussi les survivantes de la prostitution. Par exemple, je conseille des livres.
Oui, bien sûr, non, mais c'est très, très, très important.
Donc, le livre de Francine Sporenda sur les survivantes de la prostitution, et aussi le stigmate de la putain, comment en fait ce sont beaucoup de filles, alors il y a bien évidemment des enfants, des garçons qui sont aussi incestués, mais ce sont très majoritairement des filles.
Oui, je crois qu'on dit une fille sur 5, ça me paraît incroyable, mais ça pourrait être ça.
C'est ça.
Et un garçon sur 13. Donc voilà, il y a le tabou de l'inceste, en réalité, c'est pour cacher le fait qu'il est complètement pratiqué. Quoi. L'inceste n'est pas...
Mais il y a un livre excellent qui s'appelle L'inceste, le berceau des dominations.
Oui, de Dorothée Ducy.
Voilà.
Ouais, on peut aussi citer ce livre.
Qu'on peut citer aussi.
Ouais.
Qui dénonce donc toute cette violence avec la pédocriminalité aussi, puisque la traite humaine à des fins d'exploitation sexuelle, ce sont aussi des mineurs, beaucoup de mineurs.
Oui, voilà, une des filières de recrutement des prostituées se fait par l'inceste, entre guillemets, celle qui consentirait à se prostituer. En réalité, la très grande majorité sont des femmes et des filles qui ont subi des viols dans l'enfance.
Après, il y a une autre forme de fidélité qui est celle qui est celle de c'est Alain Testard, donc c'est un anthropologue qui a travaillé là-dessus et qui s'est penché un peu sur la question des morts d'accompagnement et qui lui explique ça par une amitié fidèle, une sorte d'emprise qu'on retrouve notamment par exemple chez les samouraïs pour leur maître. Et qui pourrait expliquer aussi des codes de conduite où on valorise en fait la fidélité à outrance et qui entraîne dans les morts d'accompagnement, ce sont des morts volontaires.
Ah oui.
Ce ne sont pas des sacrifices, c'est différent.
Donc, surtout dans des sociétés guerrières, je crois. Tu disais que
beaucoup dans les sociétés guerrières. Oui, 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 oui.
Ok. Alors, est-ce que... Oui, dis-moi, tu as peut-être quelque chose à nous lire.
Oui, alors, moi, j'avais cette citation de Christine Delphi. Les patrons et les hommes n'exploitent pas les prolétaires et les femmes par ignorance du mal qu'ils leur causent, mais pour le bien qu'ils en retirent. Ce qui me semble important aussi de dire, c'est que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui détiennent le pouvoir, ne sont, enfin, savent, c'est le pouvoir qui les intéresse. Parce que le pouvoir, selon la société dans laquelle on est, mais elle apporte aussi une certaine richesse, un certain confort et une certaine sécurité. Voilà, je voulais juste rappeler ça.
D'accord, ok.
Okay, je voulais dire un autre truc, mais j'arrive pas à trouver, en fait.
Bon, mais c'est pensé, ouais, le pouvoir, mais d'accord. Mais moi aussi, du coup, par rapport à la prostitution, les clients des prostituées, les clients prostitueurs, en fait, ce qui les intéresse, c'est pas la sexualité, c'est le pouvoir de posséder, d'acheter une femme et d'utiliser le corps des femmes à leur guise. C'est vraiment ça qui les... c'est le moteur, quoi. Et c'est aussi de ce dont parle Muriel Salmona. Donc voilà, en tout cas, là, on a évoqué l'inceste et tout ça, parce qu'en fait, par rapport à la soumission, ça crée une... quand on est violé, quand on subit des viols, ça crée un conditionnement, en fait, et à la soumission, quoi. Mais ok, donc peut-être pour finir sur quelque chose qui laisse un peu d'espoir dans tout ça, je crois que tu tenais, et moi aussi, à parler de ce qu'on peut faire, de ce qui existe, des luttes actuelles pour l'écologie, pour le féminisme radical, et des choses belles qui existent, ou difficiles, qui existent, et qui sont souvent très très menées, très souvent menée par des femmes très courageuses. J'ai remarqué, sans m'y connaître autant que toi, mais que les femmes sont presque toujours en première ligne pour lutter pour la paix, pour la justice, pour tout le monde, en fait, pour les animaux, pour plein de choses. Donc, je te laisse parler.
Bon, alors, comment essayer de... Comment lutter contre la destruction actuelle? Bon, j'ai pas, malheureusement, je crois que On n'a pas de solution miracle. Hein. Mais en tout cas, c'est clair que déjà, il faut vraiment s'attaquer au problème de la culture du viol, qui commence dès l'enfance par l'inceste.
Ouais.
Voilà. Par la socialisation des enfants aussi. Remettre en question les stéréotypes de genre et la violence masculine. Donc, apprendre aux garçons que le sexe n'est pas dominer le corps de la femme, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui actuellement avec la pornographie et la prostitution. Les enfants voient de la pornographie avec les réseaux sociaux dès l'âge de 8 ans, quoi. Donc, c'est assez... c'est voilà, quoi.
Et qui des conséquences dramatiques.
C'est une pornographie quand même assez violente, quoi.
Ah oui.
Ensuite, ce qu'il faut développer aussi, bah, c'est une solidarité entre hommes et femmes, les hommes qui soutiennent le combat des femmes, et aussi une sororité entre femmes. Parce que, bah, je vais donner un exemple, hein. Par exemple, bon, les animaux, les primates dont nous sommes le plus proches, ce sont les chimpanzés et les bonobos. Chez les bonobos, on considère que c'est une société matriarcale, c'est les termes qu'on utilise. Les femelles sont solidaires entre elles et la plupart des mâles font des alliances avec les femelles, ce qui permet de lutter contre des mâles particulièrement agressifs.
Ah oui.
Voilà. Parce que, bien évidemment, il y a aussi la compétition entre hommes génère, c'est ce que dit Andrea Dworkin, hein, les hommes ont très peur des autres hommes aussi. Il y a une... Enfin, c'est... Voilà.
Oui, tous les hommes ne sont pas, enfin, n'adhèrent pas forcément d'eux-mêmes à ces valeurs, mais la plupart des hommes ont peur et
oui,
sont
et
aussi
faut...
soumis en fait à d'autres hommes.
Il faut aussi, voilà, faut aussi que cette socialisation genrée, elle est aussi intégrée qu'on le veuille ou non. Donc se questionner sur sa propre masculinité ou propre féminité aussi, hein, c'est important aussi. Hein. C'est une nécessité en fait, quoi.
Ouais. Mais quand on voit que dès le plus jeune âge, tout est genré, tout est hypersexualisé, tout est même ça, j'imagine, c'est les intérêts derrière, c'est aussi avant tout commerciaux et tout ça. Mais je veux dire, c'est complètement dingue, quoi. Les jouets pour les enfants, des tout petits, voilà, le bleu, le rose. Mais maintenant, ça, c'est fille, ça, c'est garçon. Même les, enfin, c'est complètement dingue. C'est beaucoup plus accentué qu'autrefois, en fait.
Oui, là, il y a une sorte de... Oui,
ouais.
Ça, c'est clair.
Alors que, bon
Que bon, c'est pas le genre qui nous définit, ni le sexe. Enfin, si le genre nous définit, c'est le moyen de domination, en fait, de la société patriarcale, passe par le genre.
Ouais. Mais, c'est un outil pour nous hiérarchiser, une construction pour nous hiérarchiser.
Mais on peut être une fille et s'habiller comme on veut. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas du tout dans la nature de la femme d'être soumise, d'être dominée.
Voilà. Et des petites filles de jouer à la dinette et voilà, les garçons cosmonautes, la recherche, la science et la petite fille. Voilà, on retrouve toujours ces stéréotypes, encore aujourd'hui, je dirais presque plus accentués qu'avant, quoi. Donc c'est quand même dingue qu'on en soit toujours là.
Et ensuite, donc, il faut également, au niveau d'un point de vue écologique aussi, hein, et d'un point de vue pour lutter contre cette société écocide, il faut aussi se réapproprier nos moyens de subsistance, essayer de se libérer, alors je sais, c'est pas facile, hein, j'ai pas la solution miracle, mais du système industriel.
Ouais.
Voilà, donc essayer de se réapproprier des artisanats qui sont nécessaires, qui sont donc une décroissance. Je prône pour la décroissance. on a des exemples de luttes qui sont menées, comme tu disais, oui, beaucoup par des femmes. Il y a un documentaire qui est très bien, qui est ni la terre ni les femmes, où on voit bien des femmes qui luttent. Donc ça se passe en je sais pas quel pays exactement, c'est en Amérique latine. Et ce sont des femmes qui luttent contre l'extractivisme, puisque l'extractivisme est une technique autoritaire particulièrement
écocide,
enfin qui c'est une catastrophe pour l'environnement. Et ce sont les femmes qui mènent ce combat. Et souvent, ce sont les femmes parce qu'en fait, les hommes tirent profit malheureusement de cette exploitation puisqu'ils y sont embauchés.
Ah oui.
Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est souvent les femmes qui sont les premières à lutter contre ces projets,
à souffrir aussi de l'exploitation, de la destruction du vivant et à lutter contre.
Bon, alors je vais voilà, il y a de nombreux mouvements qui ont été menés.
Mais tu peux en citer
La Via Campesina, par exemple, ou le mouvement Alors, le mouvement Chipko, voilà, qui a été créé par des femmes tribales et illettrées en 1973. Donc, elles ont voulu protéger la vallée de l'Alakananda. Elles ont formé des cercles autour des arbres pour empêcher de les couper. Le mouvement s'est étendu dans d'autres états de l'Union fédérale indienne et dans le monde, quoi. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1995 aussi, ce sont des femmes et des étudiantes qui se sont soulevées pour défendre les terres communales qu'on voulait leur retirer. Ce vol des terres continue.
Ne cesse de continuer.
Oui, continue. Et c'est une politique de développement qui est imposée par la Banque mondiale, le FMI et des sociétés transnationales. Voilà, qui profite de l'endettement des pays pour s'accaparer les terres. Donc je donne aussi l'exemple du zapatisme, avec des femmes qui n'hésitent pas à prendre des armes pour lutter contre le capitalisme. Voilà, et les destructions dont il est responsable.
Et est-ce qu'il y a eu des résultats ou est-ce que... De toute façon, il faut toujours lutter, mais je veux dire, est-ce que ça a permis
clairement, les arbres n'ont pas été coupées.
Ah.
Voilà. Pour l'instant, les zapatistes ont toujours leur comment dire. Enfin, ils sont toujours là, quoi. Ils luttent toujours.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est sûr que la lutte est longue, hein. Ça ne va pas se faire comme ça, mais il faut... Bon, enfin, je n'ai pas vraiment de solution, je donne des exemples qui fonctionnent un certain temps. En tout cas, on a les zones à défendre aussi qui sont importantes.
Ouais. En France, on en a aussi certaines.
Voilà, okay. Pour donc résister... à l'hégémonie et au colonialisme du capitalisme qui est bien évidemment patriarcal, puisque ce sont des valeurs masculines qui sont mises en avant systématiquement par la prédation et par la concurrence. Donc ça va de pair, quoi. Enfin, ça va ensemble.
Ouais. C'est que tu dis qu'il y a une suite: esclavage, colonialisme, néocolonialisme. Tout ça, c'est... C'est lié, quoi. C'est la suite...
Oui.
Du coup, on va peut-être terminer par la musique qu'on avait prévue.
Oui.
Tu avais choisi Rebecca Lane, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une chanteuse guatémaltèque et qui mène une lutte féministe avec d'autres femmes d'Amérique latine, parce que l'Amérique latine, il y a énormément de féminicides. Beaucoup, beaucoup de féminicides. Les chiffres sont assez impressionnants. Et elle fait partie d'un ensemble de femmes qui luttent, et notamment via le rap. Il y a beaucoup de rappeuses d'Amérique latine qui dénoncent les violences masculines.
Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos.
cool.
Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color, yo. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color, yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color.
On va terminer sur le générique, l'hymne des femmes, mais tu peux peut-être parler de ton site. Enfin, je vais les mettre aussi au sommaire du podcast, mais
oui.
Dire où est-ce qu'on peut te où es-tu visible, les associations aussi dont tu fais partie. Enfin, je sais pas, profite de dire ça, même si voilà, pour qu'on on puisse te retrouver en fait, les personnes qui ont écouté ce podcast.
Eh bien, j'ai un site qui s'appelle Les Ruminanteux, .com, et où donc on peut trouver les notes de lecture que je fais, les articles, les poésies aussi, puisque j'écris de la poésie, voilà, enfin...
Oui, et c'est vrai que tu écris aussi des notes de lecture, tu es une très 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 grande lectrice, et donc tu fais des notes de lecture très très utiles. Voilà, la dernière note que tu avais fait justement, c'était sur le livre Ventre à louer de la SIAMS, collectif qui lutte contre la GPA. Voilà, et puis tu as de très très autres nombreuses notes de lecture sur des livres qui touchent au féminisme, à l'écologie et
au racisme.
Plein de choses. Donc voilà, c'est un site très très riche. Donc je mettrai tout ça dans le sommaire. Et du coup, voilà, je te remercie beaucoup, Anna,
pour merci à toi,
cette émission.
Pour l'invitation.
Et je remercie les auditrices et auditeurs. Et à bientôt.
Sagesse incivilisée, Anna Minsky, page 176-177. L'écologie est bien plus qu'une simple inquiétude pour le climat, pour le nombre de degrés qui augmente, le nombre effroyable d'espèces exterminées, d'enfants violés et esclavagisés, de femmes prostituées et pornographiées, de peuples colonisés et génocidés. Puisque le préfixe « éco » signifie « maison », il nous faut comprendre qu'une maison est bien plus qu'un cube de béton, bénéficiant ou pas, selon le chiffre d'affaires de son locataire, d'une climatisation connectée. Une maison est un foyer, un feu, que nous connaissons et qui nous connaît, par lequel nous aimons ou nous sommes aimés, un lieu d'épanouissement, de rêverie, de bavardage, de partage, d'échange et d'apprentissage, et pour lequel nous ressentons un profond attachement. Ainsi, du nid de l'hirondelle, du terrier du blaireau, de la ruche du frelon, de l'arbre du hibou, du lac de la carpe, de la montagne du bouquetin, du rivage du ragondin. Les peuples nomades affectionnent tout autant l'oasis, le carrefour, le puits, la roche qu'ils rencontrent quand ils se déplacent. Ils connaissent la force vitale du souffle des arbres, des herbes, des étoiles, des sources, des océans. Aussi, ce qui doit être décelé pour que notre foyer vive et s'épanouisse, avec ou sans nous, pour que la sauvageresse investisse à nouveau nos rêves et notre réalité, ce sont les mythes et contes mortifères, ces morts que les comptables de la civilisation nous ont imposés et avec lesquels ils nous ont meurtris et bercés. N'hésitons pas à nous retourner sur notre passé, notre présent et avenir n'annonçant rien de bon. Vers ces autres aussi, ces peuples indigènes qui, bien que non exempts de domination masculine, ont vécu bien plus humblement que Sapiens, et vers ces autres aussi, animaux et végétaux, dont les révoltes ont toujours été silenciées et matées. Et puisque l'imaginaire est comme l'amour, ne négligeons pas, si nous voulons sauver ce qui reste à sauver, l'affrontement avec le pouvoir des ombres portées de l'imaginaire des civilisations. Pour mener une lutte offensive et victorieuse, nous devons affronter les démons de la démesure, ceux qui se cachent sous la gloriole militante et militaire, pour développer des réseaux de sympathisantes et sympathisants aptes à aider, à protéger, à cacher, à nourrir les activistes de demain.
Que non temos pasado, mulleres.